7h43, des primaires en France à l'élection de Donald Trump, du retour des valeurs conservatrices à l'émergence de nouvelles utopies. France Culture consacre aujourd'hui une journée spéciale d'antenne à comprendre comment se recomposent les débats d'idées en France et ailleurs à l'occasion de sa participation à la Nuit des idées sous le thème « Idées et politiques, les nouvelles batailles ». Nous nous demanderons « La gauche comme la droite renouvellent-elles leurs débats d'idées et isolationnisme et conservatisme seront-ils les notions phares de 2017 ?» Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez notamment publié Vivement après demain et hier c'était le débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Vous l'avez regardé, qu'en avez-vous pensé de ce débat?
Je trouve que c'est un débat honorable entre deux hommes honorables, tout à fait l'un et l'autre capables d'être des candidats représentant les idées de la gauche. Certainement j'aurais des réticences sur l'un et sur l'autre et sur la nature du débat, mais je trouvais qu'en gros le débat était honorable.
On écoute Benoît Hamon.
Le revenu universel d'existence, c'est l'équivalent d'un nouveau pilier de la sécurité sociale. La sécurité sociale, nous ne l'avons pas faite en un jour. Et sauf à être dans la société médiatique qui pense que tout se fait d'un claquement de doigts, le revenu universel d'existence, il faudra plusieurs étapes. Comment cela est-il financé? Par un transfert de richesse qui veut que on cotise à due proportion de ce que l'on peut. C'est comme cela que sera financé le revenu universel d'existence, c'est-à-dire que les recettes qui seront dégagées, soit par des prélèvements nouveaux, par exemple la taxe sur les robots, soit par une nouvelle fiscalité sur le patrimoine, soit par une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, soit par exemple par la fiscalisation aujourd'hui des activités des géants du numérique qui ne payent pas d'impôts, ira immédiatement financer le revenu universel.
Manuel Valls. Voilà. La proposition donc de Benoît Hamon, une proposition sur laquelle vous êtes souvent revenu, Jacques Attali, on parlait d'idées nouvelles. Vous êtes l'un des partisans du revenu universel sous certaines modalités.
Oui, j'y ai beaucoup réfléchi et je trouve que cette idée telle qu'elle vient d'être exprimée ne tient pas la route, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que un revenu universel qui serait ainsi lancé à la cantonade et global pour tout le monde, c'est la grande idée du capitalisme. C'est une ruse que de voir des gens de gauche la reprendre, mais le capitalisme n'a besoin que de ça, c'est-à-dire de créer les conditions de ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, donner de l'argent à tout le monde pour consommer, et peu importe qui paye après consommer. Le capitalisme est dans une stratégie à la Madoff, dont M. Trump est un des représentants, mais c'est ça le revenu universel. Deuxièmement, si on rentre dans les détails, on s'aperçoit que en France, le revenu universel tel qu'il serait donné aurait deux ou trois conséquences assez mauvaises de façon globale. D'abord, comme nous sommes un pays qui malheureusement est très importateur, ça ne conduirait en rien à augmenter la production en France, ça conduirait à importer, donc notre déficit se creuserait. Sauf à réserver le revenu universel, à acheter des choses particulières, et ça renvoie à transformer le revenu universel en coupon pour des biens qui seraient produits en France. Ça revient au ticket restaurant ou à différentes choses qui sont intéressantes, mais qui seraient spécifiques. La troisième raison, c'est que si on met le revenu universel à la place de choses qui existent, ça change pas grand-chose, sinon que ça fait une allocation de plus à la place d'autres. Raison supplémentaire, tous les impôts que M. Hamon vient d'évoquer sont, la plupart d'entre eux, impossibles. On ne peut pas faire une taxe sur les robots, puisqu'on n'en a pas, et puis il y a déjà des taxes sur les robots, ça existe. On ne peut pas faire une taxe tout seul sur les entreprises multinationales qui peuvent aller où ils veulent, sauf à faire une taxe mondiale, et c'est un autre sujet. Donc moi, je suis pour penser cela autrement. D'abord, je pense qu'il faut, en effet, un revenu universel adapté à certains besoins. Or, il y a des besoins très précis qui ne sont pas de biens importés, qui sont des besoins d'éducation. Et moi, je serais assez volontiers tenté de dire qu'il faut un revenu universel d'éducation, où on donnerait à toutes les familles de quoi financer des cours complémentaires, des études, et aussi où, tout au long de la vie, ce qu'on a amorcé de façon très très sommaire avec le compte de formation, puisse être beaucoup plus vaste et beaucoup plus généralisé, où chacun puisse véritablement avoir un revenu de formation. Parce que c'est pas dans le revenu sans contrepartie de travail que se situe l'avenir. C'est le revenu avec le travail. Et la grande idée nouvelle qu'il y a, je crois là, n'est pas l'idée du revenu universel. C'est l'idée de considérer que se former est un travail méritant rémunération. Dans ce cas-là, toute formation va être mise en innovation et ce serait un revenu universel de formation.
Et pour les plus démunis, ceux qui ont en quelque sorte besoin de remplir un certain nombre de besoins physiologiques et qui donc devraient bénéficier d'une allocation pour pouvoir être formés.
Oui, évidemment, mais dans ce cas-là, ça existe, ça s'appelle le RSA ou différentes formes de revenus, cela devrait augmenter significativement, ça existe déjà.
Et donc, si vous n'avez pas été convaincu par cette proposition telle qu'elle est formulée par Benoît Hamon, est-ce qu'il y a d'autres idées dans ce débat sur la primaire de la gauche qui vous ont paru nouvelles, Jacques Attali?
Il y a eu des idées sur l'écologie, sur les qui étaient déjà connues, qui ont été dites, mais d'idées nouvelles, non, je peux pas dire qu'il y a eu d'idées véritablement nouvelles qui ont surgi. On pourrait en avoir et je pourrais en évoquer tout à l'heure, mais elles n'étaient pas dans le débat.
En tout cas, il y avait une autre idée qui, elle, n'est pas nouvelle, c'est celle de deux gauches irréconciliables. On écoute Manuel Valls.
Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Moi, je ne peux pas gouverner avec ceux qui considèrent que Manuel Valls, c'est pire que Jean-Marie Le Pen. Je ne peux pas gouverner avec ceux qui font des meetings, des rassemblements avec Tarek Ramadan, c'est-à-dire aux antipodes de ce que nous sommes. Donc ce débat, nous devons aussi l'assumer à gauche. Tout ne se confond pas.
Un extrait d'un discours de Manuel Valls le 15 février 2016 avec, là aussi, dans le débat d'hier, une idée ancienne, mais une idée qui fait débat aujourd'hui, celle de la laïcité. Votre point de vue à ce sujet, Jacques Attali?
Mon point de vue est tout à fait proche de celui de Manuel Valls. La laïcité ne se discute pas, elle doit être ce qu'elle est et elle doit inclure progressivement l'islam comme étant une forme de culture et pas seulement une forme de religion qui doit être traitée comme les autres en disposant des mêmes moyens que les autres de se développer, de créer des institutions responsables et en particulier des œuvres sociales qui, comme ça a été fait dans les autres religions, ont permis d'accélérer l'intégration et la modernité. Donc je suis tout à fait dans la même ligne que Manuel Valls sur ce point. Par contre, là où je pense que le débat mérite d'être repris, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les deux gauches. Ces deux gauches existent depuis toujours. Il y a eu le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Il y a eu, une fois que le Parti Communiste a été plus ou moins réduit, à l'intérieur du Parti Socialiste, une ligne plus, disons, dirigiste et une ligne plus libérale. Le génie de François Mitterrand, parmi d'autres, a été de créer des conditions de leur rassemblement dans une structure de gouvernement. C'est le seul cas où ça a été véritablement possible. Les autres cas ont été différents. Et donc aujourd'hui, cette division entre une gauche utopique, plus nationale, et une gauche universelle, reste là, comme elle est partout à travers le monde. Une gauche qui voudrait gouverner dans le monde tel qu'il est, une gauche qui voudrait que le monde soit ce qu'il veut, ce qu'elle veut qu'il soit pour qu'elle puisse appliquer ses idées, ça reste une vieille question. À un certain moment, la question c'est veut-on gouverner et veut-on gouverner dans le monde tel qu'il est.
Et alors, justement, si on se pose la question en ces termes, de quel côté de la gauche se situe-t-on, Jacques Attali?
C'est bien la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est celle-là. Dans le monde tel qu'il est, nos besoins sont d'abord et avant tout des besoins de formation. Tout va se jouer sur l'éducation. C'est la clé. Tout va se jouer sur notre capacité à prendre conscience des enjeux à 15 ans, 20 ans. Vous avez cité le livre que j'ai publié sur ce sujet, mais les enjeux à 15 ans et à 20 ans, qui sont des enjeux de mutation technologique, de transformation du monde, de transformation des besoins. Et donc, le sujet sur lequel j'aurais voulu qu'il passe 20 minutes hier, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les classes maternelles.
L'éducation a été à peine abordée.
Or, c'est le cœur du sujet. C'est le cœur de qu'est-ce qu'un président de la République? C'est quelqu'un qui doit être en charge de son pays dans 20 ans. Qu'est-ce que mon pays sera dans 20 ans? C'est ça, le président de la République. Le reste, beaucoup des sujets qui ont été traités hier sont des sujets gouvernementaux, dont d'ailleurs sur lesquels le président de la République n'a aucun impact, puisque ça dépend de la majorité parlementaire qu'il aura. Par contre, le président de la République doit avoir une obsession sur c'est quoi mon pays dans 20 ans. Et le pays dans 20 ans, ce sont les enfants qui sont en maternelle aujourd'hui qui vont le faire. Et c'est de ça dont on doit parler.
Mais sous le quinquennat Hollande, alors il y a eu à la fois un certain nombre de mesures en faveur de la formation, effectivement, il y a eu des tentatives dans ce domaine-là. Pour ce qui est de l'école, Jacques Attali, on a l'impression que ce qui a malgré tout guidé l'action gouvernementale était une sorte de vision, je dirais, anti-élitiste, l'idée selon laquelle la gauche devait tenter donc de supprimer un certain nombre de filières qui étaient perçues comme étant des filières élitistes pour tenter d'avoir une égalité républicaine au sein de l'école. Est-ce que c'est votre lecture des réformes scolaires qui ont été menées? Qu'en pensez-vous?
Mais d'abord, comme vous savez, le mot élite est employé à tort et à travers. Quelqu'un qui passe un CAPES ou une agrégation ou qui est dans une grande école mérite d'être, de faire partie d'une élite et je ne vois pas en quoi il serait membre d'une élite soi-disant autoproclamée. Bien sûr que non. Donc cet opprobre général donné aux élites qui en fait concerne plus les gens d'influence que les élites, il ne faut pas mélanger les deux, les élites méritocratiques méritent et elles doivent le revendiquer, être fières de l'être. De ce point de vue, le problème n'est pas l'existence de ces élites méritocratiques. Le problème est l'accès à ces élites. Donc le problème n'est pas qu'il existe des formations d'excellence. Le problème, c'est qui peut y avoir accès. Or, comme on sait aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile dans la France d'aujourd'hui que dans la France d'il y a 40 ans, lorsqu'on vient de milieux populaires, d'avoir accès aux grandes écoles, d'avoir accès aux grandes formations, parce que le système est de plus en plus inégalitaire à cause d'un capital culturel qui se transmet de génération en génération et pas seulement d'un capital financier. Donc c'est là le cœur de la difficulté. C'est pas l'existence des élites, j'entends des vraies élites méritocratiques, c'est le processus qui permet d'y accéder de génération en génération.
Et par rapport à cette situation, que faire ?
Je l'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est transformer l'école maternelle. C'est de faire en sorte que les écoles maternelles d'un tiers des Français qui ne sont pas en situation d'avoir des enfants qui arrivent en école primaire en parlant les 1500 mots qui leur permettent d'ensuite de faire des grandes études, soient changées. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, tout au long de la vie, il faut accompagner cela et donner tout au long de la vie sa chance aux enfants et aux adultes en créant des mécanismes de formation permanente et en acceptant ce principe. Toute formation mérite salaire. Moi, je suis pour le salaire étudiant, je suis pour le lien entre l'allocation au chômage et la formation. Pourquoi donner une allocation au chômage à quelqu'un qui ne se forme pas ? Je ne le comprends pas. Au contraire, si on admet que se former est un travail méritant salaire, à ce moment-là, on recrée une société de l'apprentissage, de la découverte, de la créativité, et tout change.
Mais malheureusement, on fait assez peu souvent de la politique pour après-demain. Cela fait longtemps que vous développez ces idées, Jacques Attali. On ne voit pas les politiques s'en saisir. Alors, est-ce qu'il y a une autre méthode pour les imposer aux politiques, ou bien est-ce qu'il faut tenter, dans l'intervalle, de proposer d'autres mesures ?
Il faut... Je publierai dans quelques jours ou quelques semaines, je n'ai pas encore vraiment décidé, la liste des 10 réformes fondamentales que ce pays doit faire dans les 5 ans qui viennent pour être véritablement à la hauteur des enjeux du 21e siècle. La France peut être le premier pays d'Europe au 21e siècle. Elle le doit, elle en a les moyens. Et l'Europe peut être, doit être la première puissance du monde du 21e siècle. Et les Européens, et en particulier les Français, peuvent vivre mieux qu'aucun autre pays du monde et aucun autre citoyen du monde dans le 21e siècle. Pour ça, il faut des réformes de fond, des réformes institutionnelles sur le nombre de parlementaires, sur la prise en compte du long terme, sur le fait que les parlementaires soient tenus de tenir compte des exigences du long terme, sur des économies considérables à faire dans les frais de gestion, sur la réforme de l'école, sur la réforme de l'environnement, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on ne parle jamais parce que justement ce sont des enjeux de long terme. Et c'est pour cela que je crois si important de débattre du programme et non pas des personnes. On vient seulement de commencer à le faire, même si certains candidats échappent encore à l'exigence d'un programme. On vient de commencer à le faire. Et alors que nous sommes à 3 mois de l'élection, c'est très tard, en particulier pour imposer des réformes comme par exemple transformer le Sénat en une chambre chargée de l'intérêt des générations futures, qui serait une réforme absolument majeure, et je ne crois pas qu'on y sera prêt encore assez
avant
vite.
D'en venir à ces idées, à ces nouvelles idées en politique, et Jacques Attali, en matière de personnes, puisqu'il y a des choix de personnes, vous n'avez pas voté au premier tour de la primaire.
J'ai voté blanc. J'ai été voté parce que j'estimais que la campagne était nécessitée, une présence de la gauche forte. Et j'ai été voté, mais comme j'étais convaincu par personne, j'ai voté blanc. Comme au premier tour, j'ai choisi de voter blanc. Au deuxième tour, je voterai pour Manuel Valls, ce qui ne veut pas dire que je voterai pour lui à l'élection présidentielle, mais je voterai pour lui parce que j'estime qu'il est celui des deux qui a le plus de capacité, de crédibilité à être président de la République. Oui.
Et si vous ne votez pas pour Manuel Valls à la présidentielle, si celui-ci est retenu par la primaire, pour qui pourriez-vous voter ?
J'attends encore 3 semaines, 1 mois avant de me prononcer. J'attends de connaître les programmes de tous les candidats. Je connais mal le programme de M. Mélenchon, qui ne me paraît pas complet, en particulier dans son chiffrage. Je ne connais pas le programme d'Emmanuel Macron, parce qu'il lui-même reconnaît qu'il n'en a pas encore. Le programme de M. Fillon semble fixé, mais il n'est pas chiffré. Alors, tout le monde dit qu'il y a un programme de M. Fillon, mais il n'est pas chiffré, donc je ne vois pas en quoi il existe. Et enfin, je ne connais pas non plus le programme de Mme Le Pen, qui, et ça me fait très plaisir, change de programme tous les matins. Elle est un jour pour l'euro, contre l'euro, pour la monnaie commune, pour la monnaie... Elle dit absolument tout et n'importe quoi, ce qui me fait vraiment très plaisir.
Mais en dehors du chiffrage des programmes, vous avez malgré tout... une sensibilité, Jacques Attali.
Ah, je voterai à gauche, bien sûr. Je ne voterai qu'à gauche, mais reste encore à trouver pour qui.
Emmanuel Macron, est-ce qu'il est à gauche, selon
vous ? J'attends son programme. C'est un de mes amis, je mets beaucoup d'espoir en lui. C'est un garçon que j'ai eu le privilège de découvrir et de faire entrer dans la vie publique. C'est un garçon tout à fait exceptionnel. Mais moi, je ne juge pas les hommes sur leur apparence, je juge les hommes politiques sur leur programme. Et j'attends le sien comme celui des autres, de me prononcer.
Vous connaissez bien le fonctionnement du pouvoir, Jacques Attali, de l'Élysée. Est-ce qu'il est possible d'être président de la République en France sans avoir été un homme politique, sans avoir été un élu ? Est-ce envisageable ?
Oui, c'est envisageable, d'autant plus que nous sommes dans une situation très particulière aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation où la droite a échoué et où la gauche a échoué. Et donc les Français peuvent se dire, nous sommes dans un moment particulier. Il faut élire quelqu'un de différent parce que c'est un moment particulier pour faire ce que ni la gauche ni la droite n'ont eu le courage de faire jusqu'à présent. Pour faire ce que la gauche aurait pu faire, ce que la droite aurait pu faire, mais que ni l'un ni l'autre n'ont fait. C'est donc possible aujourd'hui, dans une sorte de parenthèse, avant que la gauche et la droite se retrouvent, c'est possible. Encore une fois, il faudrait pour cela qu'il y ait un homme libre, ayant un programme ambitieux, courageux, et je l'attends toujours.
Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des pesanteurs, en quelque sorte, qui l'empêcheraient d'agir, cet homme ?
Tout à fait. C'est pour ça que ça n'est possible que si un tel homme avait un programme fort, était porté par un courant populaire pour le faire. Mais en toute logique, la tradition française veut que ça ne marche pas. Parce que la tradition française, c'est que au bout, celui qui se place au centre, François Mitterrand disait, si vous voulez savoir où est le centre, regardez au fond de la classe à droite.
Jacques Attali, on se retrouve aux environs de 8h20. Je rappelle que vous avez publié récemment Vivement après-demain. On continuera dans le cadre de cette Nuit des idées, un événement dont France Culture est partenaire, à évoquer les idées neuves en politique. 8h sur France Culture.